Oui, de pas en effacer.
Voilà. Alors, nous vous remercions de participer à ce travail et de vous livrer à ce petit entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire la fonction que vous occupez dans le centre de rééducation de Nau?
Oui, donc je m'appelle Pauline Jaglin et je suis psychomotricienne. Ça fait 3 ans que je travaille ici.
Ah oui, c'est une jeune professionnelle de l'établissement.
Voilà, après j'ai travaillé dans d'autres endroits, donc, mais voilà, là je travaille ici depuis 3 ans.
D'accord, donc ça vous donne un recul d'avoir travaillé ailleurs.
Oui, peut-être. Et j'ai travaillé avec des adultes, des enfants, des personnes âgées, donc
C'est parfait.
je perçois aussi que la relation au patient est différente. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Vous présenteriez comment votre position de psychomotricienne dans le cadre de cet établissement plus particulièrement? Est-ce
Alors.
que c'est spécifique par rapport au travail que vous avez fait ailleurs, par exemple?
Bah, je pense que la psychomotricité est toujours vue de façon différente en fonction des endroits où on travaille. Enfin, un métier serait différent. En psychiatrie, par exemple, la psychomotricité n'a pas la même place. C'est plutôt les motriciens, c'est plutôt ceux qui s'occupent du corps en psychiatrie. Et puis,
C'est vrai que c'est restrictif, là.
voilà. Alors qu'ici, au contraire, eh ben, y a une grande place au psycho-émotionnel, au psycho-affectif, parce que ben, y a peu de gens qui s'en occupent. Donc, il y a les psychologues et les psychomotriciens qui s'occupent de ça. Donc, en fait, en fonction des endroits où j'ai travaillé, ça n'a pas du tout été la même place. La psychomotricité était différente. En m'arrivant ici, j'ai compris que le professionnel qui était là avant moi faisait essentiellement de la relaxation, de l'accompagnement, on va dire, plus émotionnel. Donc du coup, que mes collègues ben, avaient cette image-là aussi de la psychomotricité, qui est, je pense, en train de changer aussi un petit peu par ce que je suis moi, ce que je propose aux patients. Moi, j'essaye d'être vraiment les deux. Le corps et les liens qu'il y a entre le corps et notre psychisme et notre cognitif, on va dire, entre ces trois piliers-là. Voilà. Donc ça bouge en fait. Il y a de plus en plus, par exemple, de place à l'image du corps, l'image de soi, l'identité. Donc.
Oui, en effet.
Ça bouge, c'est pas juste la relaxation parce qu'elle est un petit peu stressée ou qu'on voilà. Donc ça, belle place aussi dans la prise en charge de la douleur. Alors je suis formée en plus à l'hypnose, donc je me suis formée moi-même. Enfin non, allez, je me suis formée dans une institution, mais
Oui,
voilà, c'est
vous ne vous êtes pas auto.
auto-formée, non, non, non. Mais voilà, c'était avant d'arriver ici, voilà. Voilà, donc il y a cette partie de, oh oui, c'est un petit outil en plus, c'est vraiment une façon de s'autonomiser dans l'apprivoisement de soi et de la douleur et du corps, qui est. Alors, moi, je le pense beaucoup comme ça, mais je pense que j'arrive de plus en plus à faire passer ça à mes collègues et du coup aussi aux patients.
Alors, de fait, ça vous permet d'avoir une oreille particulière à ce qu'expriment les patients.
Oui.
Alors, dites-nous comment ils se présentent à vous quand ils arrivent. Comment est-ce que vous entrez en relation avec eux dès le début, enfin, au plus tôt, et qu'est-ce qu'ils expriment quand vous les rencontrez?
Alors, avant, je leur demandais un peu de se présenter. Et en arrivant ici, hein, j'ai changé ma façon, je pense, d'être dans ces premiers moments-là. Et en fait, quand ils se présentent, ici, ils se présentent beaucoup avec tout leur dossier médical. J'ai eu cette opération-là. Voilà. Et j'avais du mal à me dépêtrer de tout ça. En plus, il avait déjà dit à
Ah oui.
tous mes autres collègues. Et je trouvais que ça prenait beaucoup de temps et en plus de plaintes, d'identification par une maladie, une pathologie. Alors moi, je suis douloureux chronique, voilà. Et j'avais envie beaucoup de me détacher de ça pour aller accéder à la personne, en fait. Et donc du coup, maintenant, je me présente moi, ce que c'est la psychomotricité, mes outils, et voilà. Et je leur demande, en fait, ce qui fait écho chez eux. Et en général, du coup, c'est beaucoup plus... ça parle de la personne, ça parle de leurs émotions, ça parle de leur corps, plutôt que de... alors, j'ai eu une hernie entre S5 et... voilà. Donc, et j'ai modifié cette façon de faire et ça me va mieux. Je suis, moi, plus à l'aise et j'ai l'impression que, du coup, eux, en face, peuvent parler d'eux et pas, finalement, de leur pathologie. Alors, ça en déroute certains. Il y en a qui, quand même, arrivent à me dire... quand est-ce qu'ils ont été opérés, voilà. Mais et peut-être qu'aussi, je perçois mieux quand c'est plus défensif d'aller vers le médical pour pas rentrer trop dans le psycho machin chouette, parce qu'il y en a aussi, ils sont là parce qu'on leur a dit d'être là au début. Ils viennent en psychomotricité parce que c'est écrit sur leur planning.
Ah d'accord. C'est une prescription.
C'est une prescription médicale.
Donc, mais vous ouvrez quand même le champ du discours.
J'ouvre le champ du discours, le champ que ce n'est pas obligatoire et que ça va varier en fonction de qui ils sont et de ce qu'on arrive à trouver dans la relation. Moi, j'ai en tête que... la relation, c'est mon outil principal de travail. C'est ma façon de travailler. Après, les autres, c'est des accessoires. La médiation que j'utilise, que j'utilise l'hypnose ou pas, que j'utilise un ballon ou pas, pour moi, ça, c'est des accessoires. Et en fait, pour moi, la relation avec le patient, c'est ce qui permet d'instaurer un cadre suffisamment bienveillant pour qu'ils puissent s'exprimer avec leur corps ou avec leurs mots. Qui puisse être avec soi, être avec eux-mêmes, dans, se contacter en fait, et du coup évoluer dans un cadre qui est celui de la relation à l'autre et du coup à soi quoi. Donc je leur dis pas comme ça, mais je pense qu'il y a ça qui transpire de ce que je leur raconte du travail qu'on va faire. Et après, en fonction de ceux qui a fait écho, ceux qui leur parle, on essaye d'instaurer un peu une image de ce qui va se passer entre nous, pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds et ce qui va se passer pour eux, pour qu'ils puissent... s'autonomiser un petit peu dans ce que... Parce qu'en fait, en général, moi, je les vois... Alors, ça dépend ce qu'ils ont. Mais en général, moi, je les vois qu'une fois par semaine, deux fois par semaine, si j'ai de la chance, si j'ai de la place, et si c'est nécessaire. Il y en a où c'est pas nécessaire, mais... Et donc, du coup, il faut que rapidement, ils puissent se saisir des outils que je leur propose. Et les faire... En faire... Les faire, c'est les approprier. Les approprier.
Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, vu que votre oreille est tendue.
Alors, ça dépend vraiment de...
Au début en particulier, on verra après comment leur discours évolue, mais au début surtout.
Alors, au début, ils font... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ils n'ont pas l'air comme ça... C'est parce que je trouve que dans la société, c'est pas beaucoup, ça de plus en plus, mais on ne parle pas forcément beaucoup des émotions et de l'impact sur le corps, sur la maladie, sur tout ça. Et en fait, il y en a quand même beaucoup qui vont là-dessus, qui vont sur le travail des émotions, du corps, et de la place de la. Comment dire ? Que ça pourrait être complémentaire. De ce qu'ils font dans le fonctionnel, parce qu'ici il y a aussi le tout fonctionnel, le kiné, l'APA, où c'est je me remuscle, je. Voilà. Et où du coup, ils ont pas ça en psychomotricité. Donc c'est, je pense qu'il y en a aussi qui doivent être un peu déroutés quand même, parce qu'ils étaient venus pour gagner l'amplitude d'épaule ou voilà. Alors il y en a qui veulent pas. Hein. Il y en a très peu, très très peu. En général, ils ont déjà décidé qu'ils ne me verraient pas parce qu'il y a marqué psycho quelque chose sur leur... Voilà. Ceux-là, en général, j'ai beau leur expliquer, voilà, et essayer de trouver comment, ils ne sont pas venus pour ça. Et moi, je respecte parce qu'effectivement...
Oui, vous ne les obligez pas à parler. Non,
je ne les oblige pas à parler. Et puis en plus, je me dis que ce n'est pas forcément le cadre. Ils sont effectivement ici pour certaines choses et... de faire finalement un travail pour leur... parce que bien souvent, ils en ont très besoin, ces gens-là, mais voilà, pour leur montrer qu'ils auraient besoin d'éventuellement travailler sur des choses qu'ils n'ont pas envie pour l'instant de travailler, je trouve... Enfin, voilà, c'est pas le cadre ici. Enfin, surtout si je les vois 5 ou 6 fois dans leur vie, voilà, c'est un peu compliqué d'instaurer quelque chose de cet ordre-là. Donc ceux-là, voilà, je respecte leur... leur crainte d'aller accéder à leurs émotions, à leur identité, à leur qui ils sont.
Alors, quelles sont ces émotions? Qu'est-ce qu'ils expriment de personnel, de ressenti, d'émotion?
Beaucoup le stress. Alors, quand on va creuser, ça peut être des angoisses corporelles. Il y en a beaucoup. Des peurs de comment je... comment je suis maintenant avec ce qui m'arrive, en fait, comment je suis et comment je serai. Principalement, c'est ces deux-là. Alors, il n'exprime pas comme ça, mais on arrive à mettre ces mots là-dessus, c'est qu'est-ce que je maîtrise, en fait. Parce que... mon corps qui me répond pas ou pas comme avant, voilà. Et donc, comment je peux trouver quelque chose de l'ordre de la maîtrise sur moi?
Je contrôle plus ma situation.
Exactement. Ouais, donc ça. Et donc, effectivement, d'apprendre un outil qu'on peut refaire après tout seul, c'est un moyen finalement de maîtriser quelque chose. Et voilà. Et donc, ils sont souvent en demande de ça. Je veux apprendre quelque chose qui me permet de apprivoiser ma douleur. Alors non, ils disent gérer, mais moi, j'aime pas ce mot. Donc, voilà. Je dis apprivoiser, mais eux, ils disent gérer. Gérer la douleur ou...
Mais avant, là, bon, quand vous dites la question de la maîtrise, il y a comme faire le deuil de quelque chose?
Alors, oui. Ils ne l'expriment pas souvent comme ça. Hein.
Non.
Ouais. Ils vont plutôt dire. Alors, il y en a qui y arrivent, ils ont déjà fait un travail, ça se voit clairement, enfin, un travail soit seul, soit accompagné. Ils peuvent arriver en disant j'ai envie d'accepter. Voilà, j'ai besoin d'accepter parce qu'ils savent qu'en fait, ça va rester comme ça, ou en tout cas, ils auront toujours une douleur, ou ils auront toujours des séquelles de leur AVC ou de leur accident, de la route. Et donc, du coup, ils sentent qu'en fait, ils ont besoin d'accepter pour finalement avancer, pour se retrouver, pour savoir qui ils sont. Alors après, je pense que j'ai des mots écrits sur... je viens de me dire que... j'ai des petits trucs que j'ai écrits ou voilà, que j'affiche dans la salle. Et souvent, que j'ai écrit.
Quel genre de mot?
Et là, j'ai trouvé une phrase de Spinoza qui est « Le corps que j'ai n'est pas le corps que je suis ». Et souvent, on en parle grâce à cette phrase qui est marquée, que je ne vais pas afficher pour rien, mais voilà. C'est ça, il y a le corps que j'ai et comment je me sens, qui je suis. Et ça, très rapidement, ça vient en séance. Bon, je ne parle pas des gens qui ont des troubles cognitifs ou... Quoique, souvent...
La différence entre le schéma corporel et l'image du corps.
Exactement. Ils vont travailler le schéma corporel dans plein d'endroits. Mais pense que l'image du corps, ça se travaille voilà, dans cet espace-là. Et c'est aussi le seul espace, enfin, un des seuls espaces où ils sont tout seuls avec moi, enfin, avec le professionnel. Et donc, du coup, bah, c'est un espace de parole. Il y en a beaucoup qui ne voient pas la psychologue, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit qu'on ne leur a pas proposé, ou voilà. Parce que c'est pas forcément facile, je pense, pour mes collègues de percevoir qu'il y a des angoisses du corps. Avant, il n'y avait pas psychomotricité ni pour les AVC, après un AVC ou après une amputation. Alors qu'on peut penser quand même que les angoisses corporelles sont hyper importantes dans ces pathologies-là, quoi. Et donc, du coup, là, ça commence à changer. Et les patients se saisissent tout de suite de la différence, justement, ou même de la différence entre mouvement et geste. Entre je fais un mouvement et qu'il n'y a pas de signification pour moi, et je fais un mouvement en conscience, et ça produit quelque chose de moi. Ce mouvement-là, c'est moi, ça me montre moi, quoi. Et ils le perçoivent, la plupart, ils le perçoivent. Très vite, sans même que... Enfin, moi, je mets pas de mots dessus, hein, mais ils s'en aperçoivent très vite. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais...
Il y a une dissociation entre la pensée et le geste.
Eh ben, il y a une dissociation... Oui, une dissociation entre la pensée et le geste.
Je veux dire, quand on fait un mouvement intentionnel, on le fait spontanément. Là, ils ne peuvent plus. Il y a
Alors quand ils ne peuvent plus. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est ça. C'est entre ce que j'imagine, ce que j'investis dans le geste et ce que mon corps est capable de faire.
Voilà.
Oui. Ouais. Et oui. Et du coup, qu'est-ce que ça me renvoie à moi, ce corps-là, quoi.
Vous parliez d'angoisse. Elle s'exprime comment cette angoisse?
Alors moi je le perçois dans l'investissement du corps, parce que du coup de finalement se connecter à ce corps-là, le corps qui fait qui pédale en appât ou qui se soulève et qui, bon, globalement en général justement ils mettent à distance se connecter à c'est leur corps à eux, en fait. Et après, c'est beaucoup dans les mots, hein. Ils ont des parties du corps qui sont mortes.
Ah oui.
Oui. Par exemple, les gens qui ont fait des AVC, bien souvent, c'est des parties mortes pour eux. Ou c'est des parties qui contre lesquelles ils sont en colère.
Le mot est sévère.
Oui, mais il est dit, hein. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de personnification de ce qui leur arrive. La douleur m'empêche d'eux, elle m'étouffe, elle m'écrase, comme si, voilà, il y avait quelque chose en eux, quoi, vraiment. J'aime bien aussi souvent poser la question de qu'est-ce qui est solide dans le corps, qu'est-ce qui est fragile, parfois, il n'y a rien de solide. Donc on peut imaginer que voilà, se tenir debout quand on n'a rien de solide à l'intérieur de soi ou pratiquement rien, c'est voilà. Donc dans les mots, voilà, il y a vraiment quelque chose, enfin ils arrivent vraiment à exprimer quelque chose de leurs angoisses internes.
Ils manifestent parfois une révolte contre ce qui leur arrive.
Oui, oui, bien sûr.
Une révolte, quelle rencontre du réel, c'est terrible.
Et oui, et du coup, c'est pas forcément toujours. Enfin, moi, des fois, justement, je sais pas jusqu'où aller. C'est le dosage, et là, parfois, un peu. Mais c'est aussi ça qui, c'est aussi pour ça que je disais que je. La relation, pour moi, est la première chose que je travaille, parce que je pense qu'aussi en psychomotricité, c'est le lieu où justement on peut aller toucher ces émotions-là, aller ressentir ces choses-là en confiance et en se sentant voilà, suffisamment porté, soutenu pour ne pas s'écrouler. J'ai eu aussi oui, beaucoup d'angoisse de morcellement, de liquéfaction, enfin vraiment des choses. Voilà, c'est pas parce qu'ils ont l'air d'être construits et de. C'est pas parce que c'est des adultes aussi que, qu'ils peuvent pas se ressentir des sensations très.
Bien sûr.
Ouais, très archaïques, si on peut employer ces mots-là. Et je pense que du coup, bah, c'est la relation qui leur permet de. Bah, d'aller jusqu'à ces sensations-là sans se. Bah, en étant toujours un peu construit, enfin, entier, quoi. Et la révolte, oui, la révolte, la colère contre des bouts de corps. C'est la faute de ce bras.
Ah oui, oui.
Oui. Oui, ça, très très régulièrement. Il y en a aussi qui vont chercher effectivement les responsables, le chirurgien qui a fait ci, ou. Ou la pathologie. Par exemple, les personnes qui ont des scléroses en plaques, ou voilà, ça peut être.
Qu'est-ce qu'ils projettent de leurs limites sur la vie à venir ? Ils doivent l'évoquer, la
oui,
projection.
Oui, forcément. Ouais. Ben là, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont être... comment dire ? Hyper positif, c'est ce que... Enfin, j'ai pas le mot là. Je cherche, mais je l'ai pas. Donc, de pas forcément... prendre en compte finalement ce qu'ils sont en train de vivre sur le moment et de dire quand je sortirai ça sera parce que voilà, j'aurai tout récupéré ou ça dépend tellement de ce qu'ils ont aussi
oui évidemment
ouais s'ils ont bon les gens qui ont une pathologie dégénérative en général ils ont pas ce genre de discours mais quoi que ça peut arriver mais je pense qu'en fait, ça fait partie. Alors moi, souvent, je leur explique ça aux gens où je sens que justement, ils ont du. En fait, on a des gens qui viennent pour 5 semaines parce qu'ils ont mal au dos. Bon, voilà, bon, ces gens-là, s'ils se projettent, hein.
On peut venir pour un mal au dos.
Oui. Ah ici, bon. Ouais, il y a un programme pour les gens qui ont des lombalgies chroniques.
Ah oui, 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 c'est vrai, oui, je m'aime.
Ouais. J'allais les séparer, mais non, en fait, souvent, c'est... En fait, je crois qu'ils ont besoin d'étayage, de toute façon, pour que ce soit dans 5 semaines, reprendre le travail, ou que ce soit, par exemple, quand les gens qui ont fait des AVC, où finalement, ça veut dire arrêter le travail, vivre différemment... Et c'était quoi la question, déjà ? C'était comment ils se projettent, c'est ça ?
Qu'est-ce qu'ils en disent ?
Ah oui, c'est ça. Oui. Je pense que le temps nécessaire pour le corps permet aussi aux projections de se... En tout cas, d'être étayé, d'être accompagné sur ça, sur comment se projeter. Alors, c'est vrai que souvent, on parle du quotidien, de l'organisationnel. Enfin, moi, je passe comme ça, souvent, pour parler du quotidien, de l'organisationnel, pour finalement parler de soi. Parce que souvent, alors, oui, ça peut être inquiétant de savoir qui c'est qui va passer faire la toilette et tout ça. Mais bien souvent, on s'aperçoit que derrière, il y a « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Que je ne suis plus la personne voilà. que j'étais. Et c'est aussi pour ça, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui se travaille en psychomotricité, d'être avec soi, d'être avec son corps, qui sera toujours là, même s'il est différent,
Qu'est-ce qui va me permettre de faire ?
C'est ça. Et donc, du coup, c'est en fait accepter d'être avec soi, quel que soit son corps, qui se travaille aussi en séance. Parce que du coup, ça va rester. La relation à soi, il sera toujours là. Et donc, du coup, souvent, moi en tout cas, c'est ce que je travaille. C'est ce que j'ai en toile de fond quand je suis avec eux. Donc, je suis persuadée que ça, c'est ce qu'ils reçoivent aussi. Voilà. Après, il y a les troubles cognitifs qui, des fois, empêchent ce travail-là.
Oui.
Voilà. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs troubles, par exemple. Ça, finalement, c'est peut-être un peu comme ce que vous avez vu chez les alcoolodépendants. C'est que comment on fait travailler ça à des gens qui ne voient pas qu'ils ont des troubles. Ça, c'est... Pas pour les mêmes raisons, mais effectivement, il y en a qui ne perçoivent pas leurs troubles...
Est-ce que vous pouvez maintenant éclairer, depuis votre place de professionnel, votre ressenti, votre vécu de professionnel par rapport aux usagers ?
Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question.
Comment est-ce que vous commenteriez votre place de professionnel dans l'établissement par rapport aux usagers ? Je sais bien, mes questions sont un peu énigmatiques.
Je pense que je porte un regard quand même différent sur eux que d'autres de mes collègues. Donc ils sont... Donc j'ai pas forcément la même façon de parler d'eux, par exemple, à mes collègues... que les autres ou en réunion. C'était ça la question ou pas trop?
Ça peut, oui, c'est un bon angle de réponse. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est très bien.
Par exemple, là, je pense à une dame, et c'est souvent dans ces pathologies-là aussi, qui a une sclérose en plaques. Et le regard de certains de mes autres collègues, c'est... elle vient pas en séance, elle vient pas se remuscler, voilà. Et je comprends que ça soit très important pour eux et c'est très important pour la patiente. Mais en fait, en séance avec moi, elle s'exprime beaucoup. Elle est là devant. Juste parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin forcément qu'elle récupère. Je sais que je suis une rééducatrice sur le papier, mais nous, on fait aussi de la thérapie et de la prévention dans nos décrets de compétences. mais pour une personne comme ça, moi ça me semble tellement loin de lui demander de remarcher alors que déjà elle est même pas en connexion avec son corps, elle sent pas son corps, que ça m'étonne pas qu'elle ait pas, voilà. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'elle évolue vachement avec moi et les autres non. Alors ça arrive que ce soit l'inverse aussi, hein. Et donc voilà.
Il y a des temporalités différentes.
Exactement. Il y a des temporalités différentes. Moi, des fois, j'aimerais bien en fait qu'il reste un petit peu, parce qu'il y a encore un gros travail à faire. Et au contraire, il a bien récupéré en kiné ou en APA ou en ergo. Donc du coup, c'est bon, il va partir. Mais peut-être qu'il y a des psychomotriciens qui sont très rééducateurs et qui n'auront pas forcément le même discours. Mais voilà, moi j'ai cette sensation-là. Et du coup, j'essaye aussi de l'apporter quand je peux, pas toujours parce que c'est des fois un peu fatigant, d'apporter ce regard différent sur le patient à mes collègues. Avec les patients en général, j'ai pas forcément besoin de l'exprimer, je pense qu'ils le sentent et que voilà.
Globalement, le service professionnel aux patients dans l'établissement, qu'est-ce que vous en diriez ?
Je pense qu'ils sont plutôt bien soutenus, entourés quand même. Beaucoup disent que les professionnels sont disponibles, qu'il y a une bonne humeur, bonne ambiance, que c'est sont plutôt positifs hein, les patients ici sur comment ça se passe, leur relation globalement. Ouais, c'est plutôt ils se sentent plutôt bien entourés. Ouais. Bien, ouais, plutôt positif.
Comment concluriez-vous cet entretien?
Comment j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup en fonction de mon métier. Alors, je ne sais pas si c'était un peu ce qui était...
C'était une approche pertinente.
Oui, oui, d'accord.
C'était pertinent.
Voilà, donc... mais parce que forcément, c'est... Voilà, comme je l'ai dit assez rapidement, c'est, pour moi, c'est... mon fonds de commerce, la relation. Donc, forcément, c'est quelque chose qui... qui est indispensable à la relation de soins, pour moi.
Voilà. Enfin, bon, nous vous remercions pour ce témoignage, et puis nous aurons plaisir à vous retrouver pour la réunion générale. Ça.